franceinter.com.
Bah voilà, Villepin a été relaxé. Et puis finalement, pour la majorité des Français, et puis le traitement médiatique qui en est fait, l'affaire Clearstream, c'est ce truc-là qui opposait Sarkozy à Villepin, avec l'histoire du croc de boucher, j'en passe et des meilleurs. Moi, j'aimerais qu'on nous explique de façon précise, plus souvent, comme tu l'as fait il y a quelque temps dans une émission à la radio, je crois que c'était il y a 6 semaines, quelle est la puissance et le pouvoir des banques luxembourgeoises, de la société Clearstream, entre autres, de la boîte allemande qui les a rachetées. Quel est l'incroyable pouvoir de ces gens-là pour pouvoir à ce point manipuler tout le petit monde médiatique et faire en sorte que la vraie affaire Clearstream, on n'en parle jamais, et que ce tout petit épiphénomène que représente la guéguerre Sarkozy-Villepin ait pris le devant au niveau du traitement médiatique. Ça, c'est super fort, quoi. Je connais un mec là qui doit être un peu rassuré, c'est Denis, avec sa relax, mais n'empêche que le pauvre, il doit avoir bien les boules et doit bien se lamenter devant la nullité ambiante des journalistes qui tournent un peu en rond. Parce que finalement, le seul qui a un peu foutu les pieds dans le plat, c'est toujours notre bon Daniel avec son équipe de fouille merde. Donc continuez les gars, bon courage, bravo encore, salut.
Bonjour à l'équipe de La Basse J'y suis et bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux. Je vous souhaite à tous donc une très belle et une très bonne année, belle et rebelle. Pour qu'on puisse continuer la lutte, il faut continuer à repérer. Voilà, donc nous, on a changé d'adresse, Cahors. La nouvelle adresse, c'est le Bordeaux. Rendez-vous jeudi 28 février à 20h30. Et à ce propos, je voudrais remercier toute la famille Ménétrier, Georges, Lisiane et ses deux fistons qui nous ont accueillis pendant un an. Voilà, c'était Loulou de Cahors et à bientôt. Merci.
Allô, la voir si j'y suis, c'est Elisabeth à Paris. Je viens d'écouter le reportage sur les gardes à vue. C'est vraiment ubuesque. Jarry, où es-tu? Vraiment, ça dépasse tout. Au revoir.
Avis aux AMG de Dordogne. Le repère de Bergerac se réunit ce soir jeudi, comme d'habitude au plus que parfait, 12 rue des Fontaines dans le vieux Bergerac. On se demandera comment, face aux infos et aux intox, le citoyen peut objectivement prendre sa santé en main. Venez partager vos idées autour d'un verre de 18h30 à 20h30, voire continuer la soirée autour d'une assiette concoctée par l'imparfait. À ce soir.
Bonjour. Ce matin, vers 9h30, l'onde de choc d'une déflagration a été ressentie dans le sud-ouest du Finistère et jusqu'en presqu'île de Crozon, où j'ai le bonheur d'habiter. Il s'agit d'un tiers d'essai du nouveau missile M51 effectué à partir d'un sous-marin nucléaire depuis le large de la baie d'Audierne. Combien de milliards d'euros sont engloutis dans ce programme de développement de nouvelles armes de destruction massive? On a fait la guerre à l'Irak pour bien moins que ça, si je me souviens. En violation flagrante de la charte de non-prolifération des armes nucléaires, la France gaspille de précieux moyens qui font cruellement défaut à nos écoles et à nos hôpitaux. Cela se fait en notre nom. Aucun média et aucun parti politique ne s'en émeut. Les intérêts colossaux de quelques industriels proches du pouvoir sont bien sauvegardés. Combien de temps devons-nous accepter sans réagir de voir se réduire les services publics de base, accusés de ruiner notre nation, quand l'argent public fait en silence la fortune de quelques-uns?
C'était juste pour dire au Air Dîner est mort, nous sommes orphelins encore d'un grand homme. Merci, au revoir.
Oui, évidemment, on est très touchés d'apprendre la mort de Ward Zinn. C'était quelqu'un de très important pour La Basse J'y suis. On l'a rencontré à plusieurs reprises, à Paris, à Boston, tout récemment. On a enregistré avec lui une série d'entretiens qu'on diffusera d'ailleurs à partir du 8 février prochain. Mais dès demain, dans La Basse J'y suis, on rediffusera une émission avec lui. Ward Zinn a réussi à changer le regard des Américains sur eux-mêmes à travers son livre « Une histoire populaire des États-Unis » qui a eu un succès considérable, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui a été vraiment un chef-d'œuvre de science et de popularité. Savant, populaire et engagé. Voilà trois mots qui conviennent à Howard Zinn. On en parlera plus longuement demain. Engagement, voilà un engagement, celui de ces enseignants de Clermont-Ferrand qui nous ont signalé le cas de cette jeune fille et de sa sœur Salima et Salma, dont Salima est dans ce centre de rétention à Lyon, a été arrêtée dans ce centre de rétention à Lyon. On a voulu la joindre et vous allez l'entendre. Alors, par ailleurs, nous, on est toujours au Honduras. On a assisté hier à un événement extraordinaire ici, le départ du président déchu Mel Zelaya et l'arrivée au pouvoir des putschistes. On vous racontera aussi ça demain parce qu'on a très très peu de temps. Là, le temps presse avec le décalage horaire. Et aujourd'hui, c'est la suite deuxième partie de notre reportage sur les gardes à vue.
Bonjour, c'est mademoiselle Boulazar, salut, hein. Je vous appelle pour expliquer ma situation. J'étais là à l'âge de 13 ans en France jusqu'à l'âge de 18 ans avec ma soeur, ma tante en France. Et un mardi, il y avait les flics qui sont venus chez moi pour me ramener dans un centre à Lyon. Si vous pouvez m'appeler, merci. Au revoir.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, Salima.
Oui. Bah là, je les ai fait un centre à Lyon, centre des gens sans papier.
Des gens sans papier, un centre de rétention?
Oui. Oui, c'est ça.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce centre?
Bah là, ça fait 8 jours.
Vous avez quel âge?
18 ans.
Vous avez 18 ans?
Oui, au mois d'avril, j'aurais mis 19 ans. Je suis née au Maroc et je suis rentrée en France à l'âge de 13 ans. Je fais mes études ici jusqu'à 18 ans.
Vous êtes arrivée à l'âge de 13 ans en France?
Oui, et là, je passe encore mes études. Bah, ils m'ont arrêtée.
Mais et vos parents, ils sont où, Salima?
Mes parents, je ne vais jamais rester avec eux. Je reste avec ma grand-mère jusqu'à mes 13 ans.
Avec votre grand-mère?
Oui, après ma grand-mère, elle est décédée. Et je suis rentrée avec ma tante et ma sœur en France. Après, on est resté ici en France.
Donc, vous viviez chez votre tante, en fait?
Oui, oui, oui.
Votre tante, elle est à Lyon?
Non, elle est à Clermont-Ferrand.
Et vous avez été arrêtée à Clermont-Ferrand?
Oui, à 6h30 du matin. J'étais en train de dormir, oui. Je ne voulais même pas me laisser me changer, j'étais en pyjama.
Vous êtes partie en pyjama?
Oui, après j'ai dit s'il te plaît, je mets juste mon jean. Ils m'ont même pas laissé, je voulais rien, même mes soutiens-gorge, je n'ai rien pris, il ne fallait rien me laisser prendre. Quand j'ai descendu de la voiture, j'ai dit c'est quoi ça? On me dit qu'on va rentrer, vous allez voir.
Quand vous êtes arrivée devant le centre?
Oui, j'ai dit c'est quoi? Franchement, c'est impressionnant. Comme tu vois à la télé.
C'est une prison comme on voit à la télé?
Oui, c'est impressionnant. Il y a des criages partout. Les portes, ils se ferment à 10h30 pour manger, il n'y a rien. Il y a des caméras partout. Tu ne peux pas rester à l'aise. On est pas bien. Nous, on n'a rien fait. C'est un centre juste à côté de l'aéroport. S'ils trouvent une place, ils t'envoient en avion. Et après, moi, j'ai rien compris parce que j'attends mon réponse de la préfecture. Elle me dit il faut quitter le territoire français. Je l'ai expliqué, je suis partie au Maroc, mes parents, je n'ai jamais resté avec eux, maintenant je ne la connais pas. Je l'ai expliqué, la situation, elle me dit non, il faut rentrer. C'est un peu dur. J'ai personne au Maroc, tout le monde est ici. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai peur, parce que là, ils s'attendent juste à la réponse de consulat. Là, les profs, ils font des manifs devant le préfet, et sur Internet, il y a des gens qui signent, et tout le monde. Mais le préfet, il ne faut pas donner, même un titre de séjour, il ne faut pas donner. Soit il peut tout de suite peut me dire préparer ses affaires et un avion pour le Maroc.
Donc ils attendent que le consulat donne un visa pour...
Oui, pour passer. Quand je suis arrivée en France, je me trouvais bien, je fais mes études, je suis prêt aussi à parler français, à écrire, à lire. Je fais un contrat d'apprentissage, là je prépare un CAP de cuisine. Moi j'ai encore mon contrat, elle est encore faite, le contrat de travail.
Vous avez votre contrat de travail avec vous?
Oui, oui, je fais un apprentissage. J'ai eu mon employeur.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Il n'a rien compris, il m'a dit, t'as un contrat normalement, depuis l'âge de 13 ans, t'as le droit de rester ici en France. Comment je fais au Maroc? Je vais faire quoi? Si je fais mes études, je fais mes copines, tout le monde... Ils sont pas trop. Je n'aime pas. Merci. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Je vous appelle en fait pour vous donner des nouvelles de ce qui se fait à Clermont pour soutenir Salma et Salima Boulazar, dont vous avez déjà parlé sur France Inter. Depuis son arrestation mardi 19 janvier, Salima est toujours en centre de rétention à Lyon, où elle attend avec angoisse d'être expulsée. Une demande d'audience soutenue par beaucoup d'associations, de syndicats et partis politiques a été faite auprès du préfet. Ce vendredi 29 janvier, un rassemblement est prévu toujours devant la préfecture à 18h. Et je voulais aussi préciser qu'une pétition en ligne sur le site RESF dans la rubrique pétition individuelle. Merci à tous pour votre soutien.
Salut Daniel, salut tout le monde, ici c'est Charlot, étudiant à la fac de Pau. Aujourd'hui, il y a deux copines étudiantes en géographie qui ont été arrêtées et qui sont détenues par la PAF, c'est-à-dire la police aux frontières. Elles ont grandi et effectué toute leur scolarité à Mayotte, territoire d'outre-mer en passe de devenir un département français, mais sont de nationalité comorienne. Donc, elles risquent d'être expulsées, sans ressources, aux Comores, pays qu'elles ne connaissent pas, où elles ne connaissent personne. Voilà, c'est pas la première fois que je dis que la politique de Sarkozy me donne envie de vomir, mais là, c'est la première fois que c'est pas au sens figuré. Allez, salut.
Je vous appelle au sujet de City et Luz, qui sont les deux étudiantes arrêtées à Pau lundi matin alors qu'elles se rendaient à la faculté où elles sont étudiantes en géographie. Après la mobilisation qui s'est renforcée ici à Pau, nous avons su qu'elles avaient été conduites directement au Quai de l'Horloge à Paris. Et hier, jeudi, elles sont passées à 14h devant le juge des libertés qui a autorisé leur remise en liberté. Mais contre toute attente, le parquet a fait appel, elles sont toujours incarcérées. Je vous appelle parce qu'aujourd'hui, Martin Hirsch vient faire une conférence à un jet de pierre de l'université. Et depuis ce matin, vous avez les forces de police qui se mobilisent et qui se cachent en divers endroits. Donc mon appel a un but. Dire aux jeunes de faire attention, vous avez déjà été délogé à coups de matraque devant la préfecture mercredi matin, faites très attention aux provocations. Et mon deuxième message, c'est aux plus âgés, à tous ceux qui ont dépassé l'âge de la fac, à tous ceux qui se sentent sensibilisés par la recrudescence de ce genre de choses, parce qu'ici dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est trop maintenant, on a un préfet qui fait du zèle, mais au-delà de ce qui lui est demandé. Donc je demande à tous ceux qui sont maintenant sensibilisés de rejoindre les jeunes pour les épauler, parce que bientôt, plus personne, jeunes et vieux, n'auront plus que notre dignité à sauver. Rejoignez la faculté, il y a des âgés tous les soirs à 10 et puis à Rapport. Tout le monde est là, enseignants, vieux, associations, etc. Pour ces deux petites et pour tous les autres qui restent en stand-by. Merci.
Bonjour, le prochain café repère de Châteaulin aura lieu le 31 janvier à 18h au Ron Harpens, comme d'habitude. Après la diffusion du film Chomsky et compagnie, nous pourrons débattre autour des thèmes chers à Noam Chomsky. Nous serons inventifs et pourrons partager nos victuailles comme d'habitude.
C'est la déstabilisation, donc nous on ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit, on était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir, le bruit des clés dans la serrure, tout ça c'est des choses qui sont gravées dans nos mémoires et qui sont complètement injustes.
Viens, s'il te plaît.
Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout. Je crois que de toute façon, c'est fait pour ça.
On m'a attaché au radiateur. De là, ils m'ont démenotté. Ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ses jambes, à me faire tourner pour bien m'humilier.
Quand, en 7 ans, on en est presque à doubler le nombre de personnes interpellées en France, alors qu'à la même période, on essaye de nous faire croire que la délinquance a baissé, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est cette politique globale, je veux dire, de la peur et de la suspicion qu'on vit tous. Enfin, moi, j'habite près de la mutualité. Samedi dernier, vous aviez des policiers partout. Et moi, devant le trottoir vide, je demande à un CRS, est-ce que j'ai le droit de marcher ? Et il m'a répondu oui, mais doucement. Et moi, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect. Quand je vois un policier, maintenant, quand je vois 15 quarts de CRS dans la rue, ce qui est quand même relativement fréquent, je ne cours plus, je marche doucement.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Garde à vue, à bas la vue. Flight number 2, arriving.
Ça s'est passé à Mazamet, là, dans une petite ville du Tarn. On était avec ma copine et deux amis. On est parti manger au restaurant, dans un petit restaurant de la ville. Donc on est sorti du restaurant fin de soirée, quoi. On avait très peu bu. On avait bu un pichet de vin à 4 et on rentrait chez nous à pied. On n'a pas fait 50 mètres en fait en sortant du restaurant que tout d'un coup, alors que je tenais un ami par l'épaule en rigolant, là une voiture de police s'est arrêtée subitement à nos côtés. Ils nous regardaient méchamment, donc moi je me suis avancé vers la voiture de police et donc je leur ai dit ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on s'amuse, on rentre chez nous. Et là ils nous ont dit nous on n'est pas là pour s'amuser. Bon, tout de suite j'ai senti que le ton montait. À ce moment-là, le policier qui était au volant est sorti de la voiture, a fait le tour de la voiture en courant, s'est littéralement jeté sur moi, m'a projeté sur le mur que j'ai heurté violemment, donc je suis tombé à terre. Il m'est tombé dessus, il m'a menotté et ils ont commencé à me rouer de coups. Coup de matraque, coup de pied dans la tête, j'étais au sol avec ma copine qui hurlait, qui appelait à l'aide, mon ami pareil qui leur demandait d'arrêter. Ils n'ont pas arrêté, enfin, je me suis retrouvé avec les deux arcades ouvertes, le nez qui pissait, la lèvre ouverte. Et donc là, mon ami, tout d'un coup, un des deux policiers s'est arrêté de me taper, s'est retourné vers lui, lui a demandé ses papiers. À peine il avait fini la phrase, qui lui mettait une énorme coup de poing. Ils se sont jetés ensuite sur lui, ils l'ont menotté aussi. On s'est retrouvés donc tous les deux dans la voiture de police direction le commissariat. Ils ont laissé ma copine traumatisée au milieu de la rue. Et donc dans la voiture, les insultes qui continuaient, vous êtes que des déchets, tu pues la merde, tu nous pourris la société, espèce de José Boviste. Bon, ils me mettaient des coups de matraque avec la pointe de la matraque dans les côtes, donc jusqu'au commissariat.
Et vous faites quoi dans la vie ?
La moitié de l'année, je suis maraîcher bio avec mon ami. Et l'hiver, je suis ébéniste, je fais de la restauration de meubles anciens. Enfin bon, là au commissariat, on m'a attaché au radiateur devant la cellule de dégrisement où il y a les gens qui ont bu, là, qui sont la cellule vitrée. De là, ils m'ont démenotté, ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ces gens, plus 5 ou 6 policiers, à me faire tourner pour bien m'humilier. Et donc, suite à ça, j'ai été mis en cellule d'isolement. Tous les policiers de la relève sont passés pour m'insulter au hublot. Il y en a même certains qui m'ont craché dessus en me disant « t'as peur de flics et compagnie », alors que bon, j'aurais pas asséné un seul coup. Là-dessus, j'ai été interrogé le lendemain vers 11h et on m'a laissé sortir à midi à peu près du commissariat. Donc mon ami aussi qui était avec moi, pareil, hein, était en garde à vue, il a subi à peu près la même chose en garde à vue, quoi. Et ce policier, il fait des siennes régulièrement, quoi. C'est une petite ville à Mazamé. Nous, on a pas mal d'histoires de gens qui ont été embêtés par lui. Bon, ça n'a jamais été jusque-là, mais c'est régulier. On a des amis qui se font contrôler sans avoir commis une seule infraction. Et ben, c'est quand même les deux mains sur le capot et on vous fouille de la tête aux pieds sans plus de raison que ça, quoi. Moi, je sais que maintenant, dès qu'une voiture de police croise ma voiture à Mazamé, je me fais contrôler. Ils font demi-tour et me contrôlent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, le commissariat de Mazamé a été mis sur la sellette. Il y a un risque qu'il soit supprimé. Et en fait, bon, nous c'est ce qu'on pense, hein, c'est qu'ils cherchent à faire du chiffre en garde à vue. Donc ils provoquent même des altercations dans une ville où il ne se passe rien. Il faut être honnête, à Mazamé, c'est vraiment très tranquille. On n'est pas du tout victime de l'insécurité. C'est une petite ville de campagne sans problème, quoi. Nous, on a un café qui ça fait 2 ans qu'il est ouvert, ça s'appelle Le Poétique. Et on a fait d'ailleurs un café repère de là-bas, si j'y suis, dans ce café. Et c'est vrai que Le Poétique, c'est leur point. Ils attendent les gens qui sortent de là, parce que bon, c'est des gens un petit peu qui ont des idées, qui ont envie que ça change. C'est une bonne cible pour eux. Moi, j'ai ma copine qui travaille dans ce café-là. Elle a carrément des clients qui ne reviennent plus parce qu'ils ont été victimes d'un contrôle un peu violent à la sortie et qui disent non, nous, on ne met plus les pieds à Mazamé. Les gens ont peur des représailles, tout simplement. Ils préfèrent rien dire, prendre sur eux, et puis bon, voilà. Tant que ça ne va pas trop loin.
Ça peut vous arriver demain. Ouais, ça peut vous arriver demain, comme c'est arrivé en 2008 à 577 816 personnes résidentes en France et âgées de 13 ans et plus. Tous suspects. Tous en trop, tous en sursis. C'est un peu l'ambiance générale actuellement dans notre pays. Évidemment, c'est pas encore la nuit des longs couteaux, c'est pas encore le goulag. S'exprimer, aller, venir, protéger sa vie privée, les libertés fondamentales ne sont pas encore menacées dans leur existence en France, mais il y a ces chiffres qui sont là et qui sont ces gardés à vue. Eh bien, on l'entend à travers ces témoignages recueillis par Charlotte Perry, c'est des gens qui reviennent d'une manif, qui ont eu des mots un petit peu chauds avec la maison Poulaga, ou avec un chef d'État qui visite un salon de l'agriculture quelconque. Bref, des petites anicroches, des petites histoires de cours de récré ou de bac à sable et qui finissent dans des ambiances tout à fait glauques et pathétiques et humiliantes et qui dénotent le progrès de l'État pénal sur l'État social. Alors, vous allez dire, je vous connais un peu, mais si, mais si. C'est de la faute à Sarkozy. Eh bien, oui, bien sûr, tout est de sa faute, c'est bien évident. Mais ça date pas d'hier, quand même, cette histoire, ce recours à la sécurité. On l'évoquait hier, en 1997, le Parti Socialiste parlait de la sécurité comme la première des libertés. Et en cela, alignait sa politique sur celle traditionnelle de la droite. Depuis, la gauche libérale, la gauche socialiste, n'est pas revenue sur cette ligne politique. Et c'est très important. On a eu en quelques années, non seulement en ce qui concerne les gardes à vue, mais on a eu en ces dernières années une avalanche de lois visant à renforcer la sécurité quotidienne. Loi sur la sécurité quotidienne votée en novembre 2001. On a eu 5 lois générales qui ont renforcé les moyens de la police et de la justice pénale. 6 lois ont réprimé les faits particuliers, violences routières, chiens dangereux, etc. 3 ont tenté de contenir l'immigration. Nouveau terrain de liberté, c'est Internet maintenant qui est devenu un espace surveillé et on peut multiplier les exemples. Donc il y a de quoi se faire du souci. Aujourd'hui, l'insécurité sociale augmente dans ce pays. Le sentiment d'injustice n'est plus un sentiment, c'est simplement un constat lorsque l'on voit les parachutes dorés et autres stock-options dénoncés et qui indignent les dirigeants de notre pays, mais qui ne font rien, qui n'appliquent aucune justice sociale par rapport à ces obscénités. J'entendais un responsable politique parler de guerre économique. Et évidemment, ces violences symboliques, insécurité, injustice, etc., entraînent des violences réelles en retour. Violence contre soi-même, suicide par exemple, multiplication des suicides des salariés sur leur lieu de travail. Et évidemment, violence contre l'ordre établi. Mais violence qui a du mal à trouver son expression politique, étant donné la faiblesse de l'opposition actuellement dans notre pays. Donc on risque de voir la violence se multiplier, des actes de violence se multiplier dans les rues, ou bien comme on l'a vu en 2005 à travers des émeutes. Et ce que je vous dis là est tellement simple, est tellement évident que ceux qui développent cette sécurité et cette répression le savent aussi bien, sinon beaucoup mieux que moi et autant que nous tous. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, garde à vue, à bas la vue.
N'existe plus quand ils passent l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée,
souvent mentalement retardé.
Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excel, le zèle, ils excellent. Voilà pourquoi les insultes fussent qu'on passe les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas nique ta mère de la part de la mère patrie du fils.
Police, machine matrice, desserve les mandats. Police, par la soumission sur laquelle je vise. Les mandats puis par la justice sur laquelle je pisse.
Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre dans les flics qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté de tranches de con devient nerveux.
Oh, contrôle de police, monsieur.
Systématique et la façon dont l'histoire se comprime. Pas de bon, mes poches, plus me pressant les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer par.
Les keufs dans les couloirs du métro, tels sont les rêves que fait la nuit, Joe et Joe. Donne-moi les balles pour la police municipale. Donne-moi un flingue.
encore une affaire étouffée. Un dossier classé rangé, on va prendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomatie business d'Apeno. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
Écoutez, moi j'ai confiance.
Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus. Ils puent, je préfère faire confiance au moins.
Jean Danet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je suis avocat honoraire et j'ai présidé le syndicat des avocats de France. Il y a une augmentation des gardes à vue qui ne date pas d'ailleurs de ces dernières années, mais il faut reconnaître que sur les dernières années, il y a une croissance très importante des gardes à vue, puisque de 2001 à 2007, on passe de 336 000 à 562 000 gardes à vue, soit 67% de plus en 6 ans. Il est bien évident que sur les 6 dernières années, ce n'est pas l'augmentation de la délinquance qui peut évidemment expliquer les 67% de garde à vue en plus. Il faut bien qu'il y ait des éléments qui sont internes au système et qui expliquent ce recours à la garde à vue beaucoup plus important qu'autrefois. Alors, la police et la gendarmerie sont évalués depuis quelques années et ils sont évalués sur des critères quantitatifs. L'un de ces critères quantitatifs, ce sont les gardes à vue. Et selon ce que nous disent un certain nombre de policiers, la tentation est grande de devoir recourir parfois un peu artificiellement à la garde à vue, de devoir procéder à des placements en garde à vue pour ne pas encourir les foudres de la hiérarchie. Alors, le problème, c'est que nous sommes en France dans une situation où, tout de même, le gardé à vue a des droits extrêmement limités et notamment, il n'est pas assisté d'un avocat. Les gardés à vue vont avoir droit à rencontrer un avocat, mais cela va être une rencontre extrêmement limitée, d'une demi-heure. L'avocat n'a pas accès au dossier et l'avocat ne pourra pas rester au-delà de cette demi-heure et ne pourra pas assister le gardé à vue pendant qu'il est interrogé par la police. Et je crois que c'est évidemment là que les choses peuvent être dangereuses. Alors que dans de très nombreux pays européens, aujourd'hui, évidemment, le gardé à vue est assisté d'un avocat du début à la fin de la garde à vue.
Pourquoi un comportement souvent agressif des policiers et le recours à l'humiliation ?
Je crois qu'il y a à la fois un problème de culture, une police qui sait que la garde à vue est un espace, un temps où elle est seule à bord. Il y a derrière un problème de contrôle par l'autorité judiciaire. Et on sait bien que la justice n'a pas véritablement de pouvoir de contrôle sur la police et la gendarmerie. Et il y a aussi un problème d'époque, c'est-à-dire que, évidemment, quand on est dans une époque où, d'une manière non seulement nationale, mais internationale, se tient tout un discours extrêmement sécuritaire, il est bien évident que ce discours sécuritaire peut lever des inhibitions et laisser penser qu'on peut en prendre à son aise avec les droits des gardés à vue, qui sont aussi les droits de l'homme.
Attends, j'arrive tout de suite. Alors, tu m'as dit... Il est parti, je veux dire. Mets-moi une deuxième juste. Voilà, impeccable.
C'est les deux gars qui sont sur le banc là-bas qui a ramené.
Ouais.
Qui sont certainement en agent.
Il y en a qu'un qui est sur le banc.
L'autre il est enfoui.
Ok, ça va. Donc ils vont être gavés, les deux.
Voilà, certainement bien d'abord. Hein.
Ok.
C'est quasiment sûr. T'en as, t'as un des grisons.
Alors Ben. Restitution du dépôt Ben. Puis Gav.
Gav. Gav. Et Gav. Et garde à vue. Ça veut dire garde à vue. Gav. Oui. Langage quotidien dans un commissariat du coin de la rue, tout va bien. N'empêche que, voilà, un Français sur 100, cette année, fera un petit passage en garde à vue dans ce doux pays qui est le nôtre. Alors, bien évidemment, ce que nous dit Jean Danet, avocat, enseignant, chercheur à l'Université de Nantes, c'est qu'il y a des lois quand même dans ce pays et toute cette cette opération de la garde à vue doit se faire sous contrôle, sous le contrôle de qui donc ? Eh bien, des magistrats du parquet. Le procureur dit la loi doit être informé dès le début de la garde à vue, c'est-à-dire que le policier doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le magistrat du parquet, et lequel a le devoir de visiter régulièrement tous les lieux où des personnes sont retenues. Mais que le flic de base se rassure, il s'agit d'un texte qui sert juste à amuser les étudiants en droit. C'est ce que dit le Canard Enchaîné dans un dossier consacré à la garde à vue en France. Ce qu'il faut savoir également, une petite information sur cette histoire de garde à vue, c'est que selon l'ancien président de l'Union syndicale des magistrats, eh bien, le nombre des personnes condamnées n'a pas augmenté. Hein. Le nombre de gardes à vue a augmenté, mais le nombre des personnes condamnées n'a pas augmenté. Ce qui signifie que beaucoup de ceux qui ont été placés en garde à vue n'avaient commis aucune infraction. Et en voici à nouveau la preuve.
Je venais en vélo chercher de la viande chez mon boucher et j'ai tourné à droite dans une petite rue qui est en sens unique, que j'ai pris donc en sens unique sur le trottoir sur environ 5 mètres, mais pour me garer. Et à ce moment-là, à l'angle et au feu, est arrêtée une voiture de police. Ils m'ont signalé qu'il fallait que je descende de mon vélo. Et donc je leur ai répondu très poliment, immédiatement, mais ne vous inquiétez pas, je descends, je me gare juste. Pendant que j'étais en train de fermer mon cadenas, deux policières d'environ 25 ans sont arrivées, ont très désagréablement parlé en me demandant pourquoi je n'avais pas obtempéré. Alors moi j'étais très surprise, donc je leur ai dit bien sûr que si, j'ai obtempéré puisque je suis en train de me garer. Et ils ont commencé à m'agresser un petit peu en me disant « D'abord, madame, quand on parle à des policiers, on dit bonjour, on est poli, en me parlant, mais vraiment comme un chien. » Moi, ça fait 15 ans que je suis enseignante, je n'ai jamais parlé une seule fois comme ça en 15 ans d'enseignement à aucun élève. Hein. Au bout de 10 minutes, je leur dis « Écoutez, c'est ridicule cette histoire, mettez-moi ma contravention parce que j'ai roulé sur le trottoir si vous voulez. » Le ton montait, mais alors vraiment, enfin, c'est-à-dire que là, je m'exprime calmement, mais le ton, elle m'était en train de hurler dessus. Enfin, de toute manière, on ne va pas seulement vous mettre une contravention parce que vous avez roulé, on va vous mettre une contravention parce que vous avez refusé d'obtempérer. Ce à quoi je leur réponds, c'est faux, donc je contesterai. Ah, mais ça y est, mais vous nous insultez, mais qu'est-ce que vous racontez ? On peut vous mettre en garde à vue, 48 heures en garde à vue. Alors, présentation de papier, sortez-moi vos papiers d'identité. Alors évidemment, je n'avais pas mes papiers. Et donc là, je dis, très bien, je vais venir au poste avec vous. Et à ce moment-là, je sors mon portable en disant, je vais appeler mes enfants pour les prévenir. Donc mes enfants qui sont petits, qui avaient 9 et 11 ans à l'époque, et à qui j'avais dit, je descends un quart d'heure au coin de la rue chercher de la viande et je remonte. Je sors mon portable de ma poche. Et à ce moment-là, donc il y en a une qui me dit, mais vous n'avez pas le droit de sortir votre portable. Et l'autre me prend mon portable des mains, me l'arrache, me le balance par terre. On était donc sur le petit trottoir, là. Ah bah ouais, exactement, là, il y a une voiture de police, là. Comme ça, même situation, là. Au secours. Je peux plus supporter, là. Et à ce moment-là, donc, elle me retourne, elle me plaque au mur. Je vous montre, hein. En me faisant une prise de karaté, donc en me tordant le bras et en m'appuyant donc sur les genoux pour pas que je bouge, je me suis retrouvée collée comme ça à la vitre, au mur plus exactement, avec le bras complètement tordu, donc elle me faisait très très mal au bras droit. Dans l'agitation, elle m'avait relevé mon pull là, sous le soutien-gorge, alors qu'il y a les trois quarts de mes élèves qui passent en permanence. là-dessus, donc elles m'ont traînée, parce que je marchais, mais enfin c'était je te pousse et je te traîne d'une manière un peu violente. Déjà, elles m'avaient extrêmement serré les menottes, donc tout de suite ça m'a fait extrêmement mal, donc elles me les ont mises comme ça dans le dos, je pouvais pas bouger. Ils m'ont mis dans la voiture, donc moi je criais, je disais, je veux appeler un avocat. Oh, mais qu'est-ce que tu crois qu'on va appeler un avocat? Et puis surtout, j'ai commencé à leur dire non-stop, mes enfants sont tout seuls à la maison, s'il leur arrive quoi que ce soit, parce que pendant tout ça, elles m'ont dit, on t'embarque en garde à vue et on te garde 48 heures. Moi, c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc, alors, c'est vrai que ça paraît disproportionné que j'ai pu croire ça, mais dans une situation qui, pour moi, était complètement délirante, que je n'avais jamais affrontée, et j'ai été extrêmement inquiète là-dessus. Sirène quand même, sirène comme un grand délinquant. Mais les sirènes, on grille tous les feux rouges pour moi. On arrive donc au commissariat du 5e. Donc là, ils m'ont laissé. Puis au bout d'une demi-heure, ils m'ont fait monter dans un bureau. Et là, donc, le monsieur s'assied, bon, il commence à me prendre ma déposition. Et à la fin, il sort ma déposition, il me la donne en me disant, voilà, madame, vous allez relire votre déposition, vous allez la signer, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Je commence à lire les trois premières phases de la déposition, et là, malgré la situation angoissante, je me mets à rire, parce que c'était comique, quoi, c'était comique. C'est-à-dire que tout était transcrit de telle manière, dans ma propre déposition, qu'on ait l'impression que c'était moi qui avais pété un câble, qui était complètement hystérique, et que les policières, elles, avaient très sobrement et calmement fait leur métier en face de quelqu'un qui avait pété un câble. Bon, je voulais faire changer chaque phrase, parce que aucune phrase ne correspondait à ce que j'avais dit, en fait. Donc la porte du bureau à côté était ouverte, là où le commissaire était. Et à ce moment-là, il sort, et là, il dit... Non, mais qu'est-ce qu'elle a à nous emmerder, celle-là? Non, mais allez, foutez-la moi au trou, là. Elle va faire 48 heures de garde à vue, elle va arrêter de nous faire chier. Et puis, elle va la signer, sa déposition. Et moi, je le regarde, mais effaré. Voyant, donc, la menace, hein, je sais pas, c'est de l'abus de pouvoir, la pression. Donc, à ce moment-là, je dis très bien. Bon, en plus, ne connaissant pas bien mes droits, donc ne sachant pas que j'avais le droit, à ce que j'ai appris après, de quitter le commissariat sans signer ma déposition, j'aurais pu revenir ultérieurement la signer. J'ai dit, très bien, donnez-moi ma déposition, je signe. Et à ce moment-là, la policière, une des deux, celle qui était la moins virulente, est venue m'apporter donc trois contraventions. Une pour avoir roulé sur le trottoir en vélo, une pour refus d'obtempérer et une pour cris et vociférations sur la voie publique. Ça fait un an, ça m'a traumatisée cette histoire, mais complètement. Je voyais un policier sur le trottoir, je changeais de trottoir. C'est-à-dire que la police était devenue un danger pour moi. Un danger. Ça m'est arrivé d'être en voiture, de vouloir me garer, que des policiers soient sur le trottoir et que je continue à faire le tour trois fois du quartier pour pas avoir à me garer devant eux. Enfin, ça devenait un point. Voilà, j'avais peur de la police.
Viens, s'il te plaît.
Je suis allée porter plainte à l'IGS. J'ai attendu en continuant de raser les murs. 6 mois après, environ au mois de mai, ça c'était au mois de novembre, j'ai reçu un courrier m'indiquant que ma plainte était classée sans suite. Et là, un an après les faits, je reçois un courrier m'indiquant que environ 10 jours après, j'étais convoquée au tribunal pour outrage à agent, insulte à agent et coups et blessures sur agent. La procureure, dès qu'on est arrivé, on s'est installé, elle nous a fait asseoir. Elle a dit, bon, alors avant de commencer, je vais dire une chose. Dans 99% des cas, je défends les policiers. Mais là, c'est totalement inadmissible. Et donc, à la fin, la procureure a conclu en disant, je vous dis quand même, vous risquez 7 500 € d'amende et 3 mois avec sursis, quand même, de prison, pour ce que vous avez fait. Elle dit, il est évident que je ne retiens aucune charge contre vous. Et les policières, elle leur a demandé de s'excuser pour m'avoir traité de cette manière-là, mis les menottes. Moi, je lui ai demandé si on devait se laisser traiter n'importe comment et subir de l'abus de pouvoir sous prétexte que la fonction de policier était une fonction d'État qui justifiait le respect. Alors là, elle m'a expliqué que je dois l'accepter dans la mesure où c'est sa fonction de policier qui fait que moi, je dois le respecter en face.
À force de contrôle, à force de patrouille, à force de fouille, de flic qui te jauge, te juge, te transperce, te toise, te suspecte, te fiche, te classe, te statistique. Sur nos pattes de derrière, nous irons faire le beau, présentant nos papiers, dès que passe un corbeau, l'ombre d'une casquette, le vol d'un perdreau. Le jour et la nuit, partout où l'on vit, dans les rues, sur les routes, partout où l'on va, on finira un jour par être ce qu'ils veulent, des moutons numéros qui ferment bien leur gueule. Sur nos pattes derrière, nous irons faire le beau, présentant nos papiers, dès que passe un corbeau, l'ombre d'une casquette, le vol d'un perdreau.
D'autres carottes, on les a un petit coup par ici.
C'est pas cher.
Offert par champion.
On grignote à notre pouvoir d'achat, grignotant leur marge excessive.
Une carotte, carotte au lait.
Vous avez
ouais, je suis Charlotte.
D'accord, bonjour.
Alors, là, on est au champion du centre commercial de la place d'Italie.
avec les nouveaux précaires affamés du NPA qui organise une redistribution de nourriture payée par les actionnaires pour protester contre le coût de la vie prohibitif, la crise qu'on essaie de nous faire payer mais qui n'est pas la nôtre. Et exiger des prix plus bas sur les biens de grande consommation et un autre partage des richesses, bien entendu.
Et voilà ce que c'est vraiment le NPA, c'est les nouveaux précaires affamés qui font de la redistribution primitive des richesses. Vous le saviez, mais peut-être pas assez.
Moi, je suis Xavier Renoux du collectif Les Désobéissants et on donne des coups de main quand la cause nous semble juste.
Et tu as remarqué une plus grosse répression des militants politiques, des mouvements contestataires depuis un certain nombre d'années ?
Oui. La surveillance progresse, les tests de répression se multiplient. Nicolas Sarkozy n'est pas complètement stupide, donc il ne va pas trop vite. Il va vite, mais il ne va pas trop vite. Mais il fait des tests en permanence de répression. Il envoie des policiers avec des chiens dans un collège. Il prélève l'ADN même en dehors du cadre légal qu'il a lui-même défini, etc. etc. Et tout ça permet de voir comment l'opinion publique réagit si elle accepte la levée des tabous, la levée de la chasse à l'enfant dans les maternelles, la levée du prélèvement biologique pour d'autres catégories que les seuls violeurs et terroristes, l'application du concept de terrorisme à des ultra-épiciers du centre de la France. Donc on est dans une logique de répression qui croît, évidemment, mais une répression suffisamment fine pour vérifier que l'opinion publique est prête à l'accepter. Et c'est encore notre garantie, l'opinion publique ne semble pas complètement prête, heureusement, à l'accepter. Je parlais de tests tout à l'heure. Je crois que tous les dispositifs mis en place contre les étrangers, les camps de rétention pas accessibles aux journalistes, le musellement de la Croix-Rouge, sont des tests, là encore, d'acceptation sur une population extrêmement vulnérable qu'on risque bien d'étendre à toute la planète contestataire un jour ou l'autre. Alors clairement, la garde à vue est utilisée maintenant comme un objet de chantage pour nous faire craindre la répression et pour nous faire taire, très concrètement. Les statistiques montrent qu'elles ont explosé, ces gardes à vue. Et les gardes à vue qui pourraient être d'une heure à deux heures, trois heures, quatre heures, le temps de prolonger éventuellement une audition commencée dans le régime du contrôle d'identité, aujourd'hui, elles vont jusqu'aux 24 heures limite, voire sont renouvelées, pour vraiment punir aussi le militant d'être un militant. Évidemment, on est dans un mouvement de criminalisation des luttes sociales. Quelque part, c'est logique. Les riches se défendent, les puissants se défendent d'une contestation qui progresse. En même temps, nous, on se prend de plus en plus de coups et donc on est de plus en plus nombreux à protester. Donc effectivement, on est dans un bras de fer qui continue et comme à toutes les époques, l'État et les gens qu'il défend utilisent la répression pour empêcher le partage des richesses parce que c'est le véritable enjeu, évidemment. Maintenant, ils sont là, mais ils étaient à l'extérieur.
Non, ils étaient dedans, il y avait quatre flics en civil.
La police était là, mais ils n'interviennent pas ?
Écoute, je leur ai parlé, ils attendent les ordres. Et donc, tant qu'ils n'ont pas d'ordre, ils sont un peu coincés. Les médias nous protègent. Le fait aussi que notre action ne soit pas destructive, ne soit pas violente, qu'il n'y ait pas véritablement de vol, puisqu'on ne part pas avec de la marchandise, que ce qui est consommé sur place soit en partie issu de produits frais. Et puis, il y a un article de loi qui autorise les clients à déguster, à goûter, en fait, les produits frais dans les magasins. Bref, on joue sur une ligne assez fine qui permet d'éviter les dégâts. Maintenant, on ne sait pas si l'enseigne ne va pas porter plainte par la suite. C'est arrivé une fois, c'est toujours possible, mais ce n'est pas bien méchant, là encore.
C'est pas à nous de payer leur crise. C'est pas à nous de payer leur crise.
Carottes,
ouh là là, alors là, là il y a la police qui arrive, qui commence à nous courser. Ça se passe toujours comme ça?
Non, là, qui nous course, c'est n'importe quoi. Normalement, ils nous encerclent. En fait, ils essaient de nous intimider, en fait. Pour qu'on arrête de faire ces actions, que ce soit au niveau du logement, ou au niveau des stagiaires, au niveau de la consommation, ils nous envoient les flics. Ils nous font rien, ils font juste une déposition, mais on n'a pas envie de perdre du temps encore à être coincé pendant plus d'une demi-heure, voire une heure, à ne pas pouvoir partir et ensuite à se faire disperser. Sur les 5 dernières actions que j'ai faites depuis le début de l'année, c'est la 3e fois qu'il y a les flics qui se pointent. C'est-à-dire les nouveaux militants vont avoir... avoir peur. Nous, on sait que c'est que de l'intimidation, en fait. Et en même temps, là, ils peuvent plus vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en choper un ou deux. Soit ils nous arrêtent quand on sort, mais ils ne vont pas nous courser dans toutes les rues de Paris. Je veux dire, on a fait ce qu'on avait à faire. On a dénoncé des profits ignobles sur le dos de ceux qui gagnent le moins. Et voilà, et on rentre chez nous.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous restez là-bas, s'il vous plaît.
Pardon ?
Vous restez là, s'il vous plaît.
Vous vous mettez à 5 pour encercler une nana ?
Non,
ils sont journalistes.
Nous, on est journalistes.
Donc en fait, eux, vous allez les laisser passer. Et moi, vous allez m'encercler à 5. Je vais aller en garde à vue. Oui, bah oui, juste une vérification. Pourquoi vous me courez après depuis 500 mètres ? Vous êtes à 20, je suis seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 ou 7 cars avec 3 jeunes mobilettes. C'est pas juste pour 3 couillons qui ont bouffé des trucs dans un supermarché, je veux dire, excusez-moi, mais non.
Si, si.
Bah, dites-le au contribuable alors.
Ouais, c'est bien reçu, TL.
TL,
je vais me faire interviewer.
Bah, ouais, si vous acceptez de répondre.
J'en ai des choses à dire. Un jour, il faudrait que vous fassiez une émission sur la police. Il y a quelqu'un qui a un sujet avec.
Vous pas
que je vais demander de mettre fin à l'interview, merci. Je vais juste prendre votre identité, juste une personne.
Bon, rappelez l'individu gentiment au niveau du parc pour faire le contrôle, c'est un peu simple.
Ouais, sinon ça prend 2 petites minutes, hein, TL, on est bien sur place, ça prend 2 minutes et on revient. Ce sont 2 journalistes qui ont toutes les accréditations nécessaires, qui travaillent pour Radio France. Négatif, hein. Il s'agit d'une passante qui avait rien à voir, qui a interviewé à la suite, mais il y a aucun souci.
Ouais, c'est bien reçu. C'est 431, les alpha, c'est reçu.
Bon, voilà, on peut y aller. Bon. Vous avez compris un peu le sens de la manip.
On a compris le sens de la manip.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à vous, bonne continuation. Si vous voulez venir interviewer des policiers, n'hésitez pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront des choses à dire.
C'est vrai que c'est nouveau. Moi, il m'a demandé ce qu'on faisait et pourquoi on les faisait. Il disait qu'on avait raison, en fait. Ils ont dit que j'étais une passante.
Une passante, absolument.
Ils m'ont protégée, en fait. Ils ont dit à leur supérieur que j'étais juste une passante, alors qu'effectivement, j'étais une militante. Donc, ouais, c'est bien.
Je suis ton CRS, mes coups de matraque seront pour toi des caresses. Tu es si jeune et moi, je suis si moustachu. Comment puis-je avouer cet amour? Tu es mon étudiante, je suis ton CRS. Pour toi, je chargerai avec délicatesse. Malgré les apparences, j'ai un cœur tendre. Comment te le faire comprendre? Syndicats, vous étiez des milliers. Pour les pouvoirs publics, des centaines. Mais pour moi, nous n'étions que deux. Quand je t'ai vu crier derrière la grille que nous avions posée à la Bastille, j'étais si troublé que le projectile que tu m'as lancé a fait bim, bim dans mon corps. Oh, 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 oh. Je suis ton CRS, mon bouclier ne fera que frôler tes tresses. Je te protégerai, toi qui es si menu, qui donc t'a bousculé. L'accuse, tu lui de l'avoir fait. Ah, lui, c'est un collègue, tu sais, il est marrant, tout ça. Il avait pas fait exprès, il t'a prise pour quelqu'un d'autre. Tu es mon étudiant. Tu es mon étudiant.
Je suis magistrat, je m'appelle Serge Portelli, je suis vice-président au tribunal de grande instance de Paris et membre du syndicat de la magistrature. En France, s'il y a une urgence des urgences, c'est de réformer, mais radicalement, la procédure de garde à vue. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un président de la République, en 2009, qui, au mois de janvier, vient à la Cour de cassation, en disant « écoutez, j'ai bien réfléchi, finalement, il y a une priorité dans la justice pénale en France, c'est de supprimer le juge d'instruction. » J'ouvre mes yeux, je nettoie mes oreilles, je me dis « c'est pas possible, enfin, on s'est trompé, enfin, il a ouvert le mauvais dossier, quoi, c'est évident. » Parce que le vrai dossier, c'est pas celui-là. L'immense atteinte aux libertés permanentes, c'est la garde à vue aujourd'hui en France. C'est une procédure qui est en droite ligne avec la Sainte Inquisition. Faut être clair. Vous privez un citoyen de tout contact avec le monde extérieur pendant au maximum 48 heures, voire plus dans un certain nombre de cas. Vous le faites voir son avocat très rapidement, voilà, pour échanger les nouvelles du jour et de la météo. Et puis, c'est terminé. Enfin, vous avez un contrôle lointain, mais très lointain, généralement uniquement téléphonique, d'un magistrat du parquet, la plupart du temps, dont on sait l'immense indépendance, avec des pratiques plus que douteuses. Et d'une certaine façon, je ne jette pas la pierre aux policiers, parce que quand vous êtes si peu contrôlé et que vous avez à votre disposition un moyen de coercition aussi énorme, je veux dire, les abus, c'est évident qu'ils sont plus que tentants. Voilà. C'est le système qui pousse à ça. C'est pas pour rien quand même qu'en France, on a été condamné 3 fois dans les 15 dernières années par la Cour européenne des droits de l'homme pour torture dans des procédures de garde à vue en France. Alors, je ne dis pas du tout que c'est la pratique courante, mais il y a dans cette procédure de garde à vue en France une violence, mais pas physique, mais une violence psychologique qui est totalement inadmissible. On imagine qu'en abaissant les gens, en les humiliant, on va les conduire plus facilement à dire la vérité. Parce que derrière tous ces débats sur la garde à vue, il y a une problématique de fond, de savoir quels sont les moyens de coercition que peut utiliser une démocratie, de savoir est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel moyen pour arriver à une fin, et quelle fin. Il y a d'ailleurs actuellement des choses qui m'effraient beaucoup, c'est que non seulement vous avez une glorification du nombre de gardes à vue, mais vous avez une volonté de ne pas écouter les alertes qui proviennent d'un certain nombre d'organismes institutionnels, français, voire étrangers. Je ne parle même pas des organisations non gouvernementales ou des syndicats, et qui risquent de faire croire qu'il y a une sorte d'impunité assurée et qu'on peut continuer à accroître ces violences d'État.
C'était un reportage de Charlotte Perry, première diffusion le 24 mars 2009. Merci à Jean Danet, Serge Portelli et à Xavier Renoux. À lire Garde à vue de Mathieu Aron, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui et publié aux éditions Arène. Sachez que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont et Christian Thibaudot, à la réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Moutet. Assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Catherine Pinto. Et le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Notez-le bien, 01 56 40 37 37.
Bully the beat, I thought I heard a booty rap in the great words of love, not war. If you diss me, it's peach. Brown water like whiskey is cheap. We in the streets deep. All over your eyes, don't sleep with the sheep. Balance the scale for the fish and the reef. They wanna so sweet, catch a cavity creep. Keep on keep, bygones be bygone and breathe. Leave the place to retreat. Got
a trick on my sleeve, a phrase that pays. The receipt is a pressure bust pipe. Steve makes parables preach. With a beard to his knees, it's no shade for the priest.
We bringing niggas from the street.
Get off your seat,
stamp your feet. Come on and touch me in the...